Rendez-vous à l'Élysée pour les parlementaires calédoniens. Les deux députés et les deux sénateurs seront reçus par Emmanuel Macron à 19h30 ce soir, heure de Nouméa. Aucune exaction majeure à noter sur le territoire. Côté transport, les bus rails sont toujours à l'arrêt. Un arrêt forcé qui génère un manque à gagner de 160 millions de francs. Emmanuel Macron persiste. Pas question de nommer un candidat du nouveau Front populaire à Matignon. Il appelle plutôt à bâtir une coalition parlementaire qui irait de la droite républicaine à une partie des socialistes. En sport, les premières épreuves au JO. L'équipe de France de rugby à 7 messieurs s'est déjà qualifiée pour les quarts de finale. Entrée en compétition des footballeurs réussie avec une victoire 3-0 contre les USA. Et puis la suite de nos portraits consacrés aux athlètes calédoniens sélectionnés pour Paris 2024. Ce midi, Nicolas Goyard, engagé en IQ Foil. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans cette période difficile pour l'économie calédonienne, l'exportation reste-t-elle un atout? Et malgré la situation, certains produits calédoniens continuent-ils de s'exporter? Nous en parlerons dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi avec nos invités Christopher Laureau et Mario Lopez qui sont coprésidents du Cloister NCTNI consacré à l'export avec Thierry Bonnet de l'Arbogne de l'entreprise Voltnc, mais aussi de Cécilia Ruiz, la directrice de mission à la CCI et de Candice Levé, conseillère internationale à la CCI. Des jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de cette édition. Rendez-vous à l'Élysée pour les quatre parlementaires calédoniens, les députés Nicolas Metzdorf et Emmanuel Djibaou et les sénateurs Georges Naturel et Robert Rouy seront donc reçus ce soir à 19h30 pour nous par le président de la République, Elisabeth Noir.
Et lors de cet entretien, il sera bien sûr question de la situation de la Nouvelle-Calédonie après 2 mois et demi d'émeutes et notamment de l'aide que peut apporter l'État pour sauvegarder l'économie calédonienne. Avant cette rencontre, les quatre parlementaires ont d'ailleurs co-signé, en tant que représentants des deux légitimités, une lettre à Emmanuel Macron dans laquelle ils se disent conscients de la gravité de la situation économique du territoire et de l'importance de son soutien. Ils écrivent au président de la République qu'en concertation avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ils sollicitent solennellement son intervention urgente pour la transformation en subvention des deux prêts consentis par l'AFD à la Nouvelle-Calédonie en 2020 et en 2022, des prêts de 28,6 milliards et de 20 milliards pour venir en aide à la période, pendant la période Covid. Évoquant les événements tragiques survenus depuis le 13 mai et qui ont plongé la Calédonie dans une situation de crise profonde, les quatre parlementaires écrivent au chef de l'État que les émeutes ont ravagé l'économie calédonienne, anéantissant des infrastructures critiques et plaçant le territoire au bord d'un effondrement économique sans précédent. Ils ajoutent que le gouvernement de la Calédonie se trouve en grande difficulté pour rembourser ses prêts, tout en faisant face aux besoins urgents de reconstruction et de relance économique. La transformation de ces prêts en subventions permettrait à la Nouvelle-Calédonie de retrouver une capacité d'investissement, écrivent les quatre parlementaires. Ils ajoutent que ces subventions exceptionnelles sont cruciales pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de se relever et de se reconstruire rapidement et durablement.
Et de leur côté, les parlementaires indépendantistes, le sénateur Robert Rouy et le député Emmanuel Djibaou ont récemment rencontré la presse pour réclamer à l'État la reprise du dialogue pour dénouer la crise politique. Mais ils posent une condition à cette reprise du dialogue. L'État ne doit pas seulement suspendre le projet de loi constitutionnelle portant sur le dégel du corps électoral, mais il doit annoncer son retrait définitif, explique Emmanuel Djibaou.
Le projet, il faut que l'État l'annonce comme définitivement retiré pour permettre de valider finalement l'objectif qui était la mobilisation première des barrages sur le terrain. Donc c'est ça, quand je dis que la balle est dans le camp de l'État et qu'aujourd'hui finalement on se retrouve à discuter avec des ministres démissionnaires pour tenter de résoudre une situation de crise économique, de crise institutionnelle qui va certainement dérouler, si on ne fait rien, vers une crise humanitaire. Le FLNKS, ça fait déjà plus de 6 mois qu'il demande cette annulation et que du coup, si aujourd'hui il n'y a pas de décision ou de message qui est donné dans ce sens, les discussions, c'est plus compliqué de les avoir dans la mesure où on a dit que c'était la partialité et de vouloir engager une résolution institutionnelle et de changer les règles du jeu en cours de partie, c'est pas acceptable pour nous. C'est là où le message, il est important. De redonner du cadre à la discussion, ça veut dire qu'on redonne confiance à chacun des partenaires, que ce soit les loyalistes, les indépendantistes et l'État français.
Emmanuel Djibaou, joint par notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier et 69% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent qu'il est utile que la ministre des Outre-mer Marie Guévenoux vienne en Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours. Ils sont 31% à être d'un avis contraire. Et puis voici notre question du jour. Êtes-vous choqué par la présence de Michael Forest à la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques de Paris alors qu'il était la semaine dernière à Bakou pour le congrès des colonies françaises organisé par l'Azerbaïdjan. Si cela vous choque, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La mission d'information du Congrès sur la crise du mois de mai s'est réunie à huis clos hier dans l'hémicycle du boulevard Vauban, Nicolas Legrand.
Oui, elle rassemble le bureau du Congrès, c'est-à-dire son président, les 8 vice-présidents, les 2 secrétaires et les 2 questeurs, ainsi que le président de la commission permanente et les membres du gouvernement. Il s'agit là pour l'exécutif de faire un point général sur la crise actuelle et ses conséquences. Une séance qui permet donc de dresser un état des lieux, mais pas de faire des prévisions, reconnaît le membre du gouvernement en charge du budget, Yannick Slamette.
Le gouvernement informe les élus du Congrès sur tout ce qu'il peut faire, surtout dans cette situation qui est assez particulière. Et surtout, au moment où je vous parle, c'est surtout de faire état du recensement de la situation, c'est-à-dire des entreprises, du chômage, des besoins de trésorerie, etc., etc.
Est-ce que ça permet quand même d'en tirer des enseignements ou éventuellement de faire des prévisions ?
Ah, pour le moment, non. Pour le moment, non. Ça permet seulement de dire au Congrès que le gouvernement s'est engagé dans une stratégie qui s'avère nécessaire pour pouvoir faire ces réformes qui seront de toute façon indispensables.
L'absence de perspective, c'est justement ce que déplore le groupe loyaliste au Congrès, dont Françoise Suvet est la présidente.
C'est un point détaillé, on va dire, chiffré, effectivement, d'un état des lieux qu'on connaît, puisqu'il y a près de 800 entreprises qui ne fonctionnent plus aujourd'hui ou partiellement. Il y a plus de 20 000 emplois qui sont perdus, enfin détruits. On aborde évidemment le trou des comptes sociaux, les vides abyssaux de nos budgets. Par contre, effectivement, c'est qu'un état des lieux. Il n'y a aucune perspective et c'est difficile aujourd'hui de faire des perspectives quand on sait qu'on est complètement dépendant de l'État. Et quand vous faites des perspectives, vous avez forcément un financement qui va avec. Et ce financement, je veux dire, il ne peut venir évidemment que de l'État.
Et cette mission est prévue de se réunir tous les mois ou alors à la demande express du Congrès. Notez que les élus qui ne sont pas membres de cette mission peuvent tout de même assister aux réunions.
11h38, dans un instant, on se retrouve pour évoquer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
À Nouméa et dans le Grand Nouméa, pas d'exactions majeures à signaler. Toutefois, quelques barrages subsistent encore, notamment dans le nord, à Gomène, Koumak ou Wegwa. Dans les communes de l'agglomération, à part le blocage de la route au Mont d'Or, à la tribu de Saint-Louis, la situation est calme et la vie reprend peu à peu. C'est notamment le cas à Païta, Isabelle Pelletier.
Oui, après quelques jours d'accalmie, les commerçants du centre-ville de Païta et la population retiennent leur souffle, mais profitent du calme relatif pour retrouver un semblant de normalité. Ce matin, les habitants faisaient leurs courses à la boucherie, la boulangerie ou la papeterie qui vient de rouvrir, comme l'Olesio et son épouse.
Ah, c'est difficile à évaluer ce qu'en ce moment on vit. Parce que c'est vraiment... Parce qu'en ce moment, nous, on est obligés de partir loin pour chercher quelque chose. Mais depuis tout à fait au début, on est cloîtrés dans notre maison. On ne sortait plus. Tellement on a peur. Ce qui fait que c'est notre fils qui travaille chez nos mères de temps en temps. Il passe à la maison. Il nous emmenait du riz, un peu de la farine et autre chose. Avec du pain. Ce qu'il trouve. Mais sinon, non. Ça nous fait de la peine de voir commencer maintenant notre village. Avant, c'était joli, mais maintenant, c'est carrément une poubelle. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment ici, en Païta ? Tu passes vraiment, tu fais le long de la route, tu vois tout ce qui a été brûlé. Là. Il nous reste peut-être deux petits magasins, là. Mais il ne peut pas se venir à nos besoins.
Juliana est vendeuse à la boucherie de Païta. Elle s'efforce de rester positive.
Moi, ça a toujours été. J'ai toujours resté positive. Et les gens, ça va un peu mieux pour certaines personnes. D'autres ont beaucoup plus de mal à s'en remettre et n'acceptent toujours pas ce qui s'est passé. Mais bon, comme je disais, il faut rester positif et il faut avancer. Il faut avancer, il faut laisser tout ça derrière nous. Et puis, il faut continuer à avancer ben, pour nous déjà, pour nos familles, pour nos amis, pour la population, pour tout le monde. On ne se sent pas du tout menacé, mais non. Et puis, voilà, on avance, quoi. On avance, on essaye d'avoir un peu de tout pour nos clients, pour nos gens. Et puis, ainsi va la vie.
Les travaux sur l'échangeur nord de Païta ont commencé ce matin à 7h. Il faut consolider le talus qui avait été vandalisé. Benoît Brosse est chef de bureau à la DAEM, la Direction des Aménagements et des Moyens de la Province Sud. Il est chargé de la voie express et de ses travaux.
Les travaux de confortement de talus et de nettoyage un petit peu de la zone sont concentrés que sur une journée, 7h à 15h. Là, on remet du fraisa, du matériau qu'on a enlevé et qu'on a en stock chez nous, pour remettre par-dessus les gabions de façon à sécuriser, à éviter de la poussée des terres. Ce ne sont que des travaux temporaires.
Alors, il y a aussi des véhicules qui ont été incendiés sous ce pont qui est très passant. Donc là aussi, la Province Sud va faire vérifier la solidité de l'ouvrage.
Oui, il y a eu plusieurs voitures qui ont été brûlées en dessous et il peut y avoir des risques de fissuration. Il va y avoir une opération pour nettoyer sous l'ouvrage et regarder s'il y a des traces de fissures à l'aide de bureaux d'expertise qui vont être missionnés pour ça.
Et la circulation s'effectue normalement dans le sens sud-nord et sur une voie dans le sens nord-sud. Les travaux durent donc, vous l'avez entendu, jusqu'à 15h.
Les bus rails sont eux toujours à l'arrêt. Les conditions de circulation actuelles ne leur permettent pas d'envisager une reprise du trafic sur le réseau du SMTI. C'est ce que nous a dit le directeur général du syndicat mixte des transports interurbains, Ludovic Lombard.
Toutes les semaines, on envoie une équipe sur le terrain pour vérifier les conditions de circulation. Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est tout simplement que sur certains points de la Nouvelle-Calédonie, comme à Vaux, sur la transversale, sur Thiau ou encore qu'à la Gomène, on a des barrages qui sont encore installés avec des chicanes, avec des véhicules qui sont positionnés. Et vu la longueur de nos bus, aujourd'hui, on ne peut pas passer entre ces chicanes. Pour le moment, on ne peut malheureusement pas reprendre les services du rail. Clairement, on a nos usagers qui nous contactent toutes les semaines. On sait qu'il y a un véritable besoin. On est vraiment en attente de reprise, nous également. Il y a un véritable besoin des usagers de se rendre sur le Grand Nouméa pour des démarches administratives, médicales ou tout simplement pour venir voir sa famille. Mais également des gens de Nouméa qui veulent remonter dans le Nord et malheureusement, on ne peut pas apporter ce service-là par manque de sécurité et incapacité de pouvoir accéder à certaines communes de Nouvelle-Calédonie.
La compagnie est à l'arrêt depuis le 14 mai, ce qui la met en grande difficulté financière. En 10 semaines, le SMTI déplore un manque à gagner de 160 millions de francs en raison notamment de l'arrêt de la vente de tickets, mais aussi de la baisse des taxes sur les carburants.
Avec 160 millions de pertes de recettes, l'établissement est en forcément grande difficulté. Et on espère une reprise rapide de l'économie générale et de notre réseau pour pouvoir faire face à nos dépenses obligatoires et éviter de se retrouver sur une situation budgétaire déséquilibrée qu'on ne pourrait pas rattraper. Et là, on est en train de prioriser les paiements pour préserver notre trésorerie. D'un point de vue budgétaire, on commence à être très très en danger puisqu'on ne parvient plus à équilibrer les dépenses et les recettes. Par contre, en termes de trésorerie, on a encore 2 mois devant nous. C'est extrêmement inquiétant. On a reçu notre flotte en début d'année 2024. On a remboursé simplement 6 mois de l'emprunt qui a été contracté sur 8 ans pour un peu plus d'un milliard de francs. On est en train de travailler avec les établissements bancaires prêteurs, donc l'AFD et la BMC, pour décaler les échéances du deuxième semestre parce qu'on ne peut pas faire face à ces dépenses cette année. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant pour cette partie-là. Il faut effectivement rembourser la flotte qu'on vient d'acquérir.
Le SMTI a donc 2 mois de fonds de roulement devant lui grâce notamment au paiement des dotations du gouvernement et des provinces sud et nord en début d'année. Et puis à propos de transport, notez que les vols directs vers le Vanuatu reprennent au mois d'août. Les vols prévus entre Nouméa et Port-Vila pendant les prochaines vacances scolaires, ce sera les vendredis 2, 9 et 16 août. Les vols suivants sont prévus pour les vacances d'octobre. 14 étudiants de l'université vont s'envoler vers Paris pour suivre les Jeux Olympiques, une initiative qui s'inscrit dans la politique sportive de l'UNC dans le cadre du projet Excellence Paris 2024. Nous en avons parlé ce matin avec le directeur de communication de l'UNC qui était notre invité du matin. À cette occasion, il a aussi lancé un appel aux étudiants pour qu'ils s'inscrivent pour le deuxième semestre de leur année universitaire. C'est le moment, nous a dit Sylvain Raffarartigue.
Le monde universitaire a ses particularités. Il faut se réinscrire dans ce qu'on appelle les inscriptions pédagogiques pour chaque semestre, parce que les années universitaires sont divisées en deux semestres. Donc là, j'appelle tous les étudiants, même si le premier semestre a été perturbé, même si le premier semestre, les notes n'ont pas forcément été bonnes et toutes les matières n'ont pas été validées, c'est pas grave. Il faut qu'ils s'inscrivent pour le deuxième semestre pour continuer. L'année n'est pas terminée, ce sera pas une année blanche. Donc il faut s'accrocher et il faut réaliser ces inscriptions pédagogiques sur leur espace en ligne, ils ont l'habitude. Mais vraiment, j'encourage les familles et les étudiants à se maintenir parce qu'on n'aura jamais eu autant besoin de l'université que dans la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie. Demain, il nous faudra des ingénieurs, il nous faudra des médecins, des avocats, des chefs d'entreprise. Donc, on a besoin que les jeunes s'accrochent et continuent leurs études et donc réalisent leurs inscriptions pédagogiques maintenant.
Sylvian Raffin-Artigle, directeur de communication de l'université. Parlons météo maintenant. Lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Un record de chaleur battu de justesse avec une moyenne de 17,15 degrés sur la planète contre 17,09 établi la veille et 17,08 degrés le 6 juillet 2023 en Nouvelle-Calédonie. Le mois de juillet est globalement au-dessus des normales de saison, nous a dit Alexandre Pelletier, climatologue à Météo France Nouvelle-Calédonie.
On avait par exemple aux alentours du 14 juillet des températures minimales qui dépassaient de 4 à 5 degrés la normale. Voilà, donc on est plutôt sur un mois de juillet qui est chaud en matinée, au tout début de matinée, au lever du jour, et voilà, plutôt proche de la normale les après-midi, voire récemment, donc plutôt inférieur à la normale, mais voilà, grosso modo, On a un bilan voilà, qui est celui-ci pour la Nouvelle-Calédonie.
Donc. Côté précipitation, il est tombé à marée l'équivalent de 4 mois de pluie en 4 jours. Alexandre Pelletier fait donc le point sur les récentes précipitations.
On est dans une situation très humide, voire extrêmement humide, exceptionnellement humide sur les Loyautés. Alors vous parliez de marée, effectivement, avec presque 400 mm donc à La Roche et à Tadine, donc ça fait des quantités de pluie vraiment très marquées. À Lifou, on est à plus de 200 mm, alors que d'habitude, on enregistre 70 mm. Vous voyez, on est sur des cumuls sur les Loyautés qui sont importants. Sur la Grande Terre, on est sur la côte Est, notamment, à presque deux fois la normale, donc là aussi beaucoup de pluie. Et puis, sur la côte Ouest, donc on est aussi en excédent. Plus au sud, on peut le voir encore aujourd'hui, à Nouméa, on est à peu près à 80 mm, alors que la normale est à 50 mm. Donc là aussi, des cumuls supérieurs à la normale.
Et le mauvais temps de ces derniers jours va s'atténuer peu à peu. Le soleil devrait reprendre le dessus d'ici ce week-end. 11h48, dans un instant, l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Véhicule disponible chez Toyota. Alors venez profiter de nos offres du mois de juillet avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifou. Le Toyota Raize à partir de 29 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Yaris Cross à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota RAV4 à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Et le Honda HR-V à partir de 45 900 francs par mois, entretien inclus. Prenez votre véhicule tout de suite et payez-le dans 3 mois. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi. Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite de votre journal. On retrouve Jean-François Bodin.
Et le nouveau Front populaire continue de penser que le poste de Premier ministre lui revient de droit. Mais Emmanuel Macron a pourtant opposé une fin de non-recevoir à la nomination de Lucie Castet, désignée par les forces de gauche après des jours de négociations et de tergiversations. Le chef de l'État rappelle que si le nouveau Front populaire dispose du groupe le plus important à l'Assemblée, il n'a pas la majorité, loin de là. Une réponse du chef de l'État qui a fait réagir Lucie Castet sur France Inter.
L'inconséquence du président de la République était inquiétante. Le déni de démocratie en refusant d'appeler la formation politique qui est arrivée en tête aux élections est grave. Et les résultats des élections sont absolument clairs. C'est un rejet de la politique du gouvernement. Et c'est la demande d'une nouvelle orientation politique, d'une rupture pour le pays.
Emmanuel Macron appelle plutôt à bâtir, lui, une coalition parlementaire qui irait de la droite républicaine à une partie des socialistes. C'est aussi l'avis d'une partie des ténors de la Macronie, Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Ils estiment, comme le président, que les électeurs attendent davantage de sécurité et une meilleure maîtrise de l'immigration. Pour une partie de la majorité sortante, le nouveau Front populaire n'est arrivé en tête aux législatives qu'à la faveur du barrage anti-RN. Beaucoup font le constat de l'impossibilité pour la gauche de pouvoir gouverner sans majorité, d'où la tendance à se tourner plutôt vers la droite et notamment vers le pacte législatif proposé par les troupes de Laurent Wauquiez. Aurore Berger était l'invitée de la grande interview de Florian Tardif sur Europe 1.
Cette coalition parlementaire, encore une fois, celle qui aujourd'hui peut se dessiner, c'est une coalition parlementaire avec le bloc central et la droite de gouvernement. Moi, j'espère que ça puisse aller au-delà. Mais pour aller au-delà, encore faut-il que des membres du Parti Socialiste notamment acceptent de se détacher enfin de la France Insoumise.
Et Aurore Berger de citer les noms de Michel Barnier, de Gérard Larcher ou de Xavier Bertrand. Autant de personnalités susceptibles, selon elle, d'offrir de la stabilité au pays à minima pendant un an. Une hypothèse qui nécessiterait néanmoins que le Rassemblement National accepte de ne pas mêler ses voix à celles de la gauche pour censurer le futur gouvernement.
L'actualité en métropole, c'est aussi cette décision de Catherine Vautrin. La ministre du Travail a pris la décision par arrêté d'interdire la vente de Sniffy en France. Cette poudre énergisante inhalée par le nez fait fureur chez les jeunes.
J'ai ce soir signé l'arrêté interdisant la commercialisation de Sniffy dans notre pays. Une poudre blanche qui avait pour cible des jeunes et que vous commencez à sniffer, c'est parfaitement addictif et le lien avec des produits illicites est évident. Et je pense qu'il est très important qu'on protège le plus possible les jeunes de ce type de produits qui sont extrêmement dangereux et qui peuvent devenir addictifs.
Catherine Vautrin, ministre de la Santé. Et puis Emmanuel Macron continue de vanter l'attractivité de la France auprès des investisseurs, notamment étrangers. À l'approche des Jeux Olympiques, le chef de l'État organise la nuit prochaine pour nous un déjeuner à l'Élysée. Il souhaite rassurer les investisseurs potentiels après l'épisode de la dissolution et donner une image positive de la France. Margot Faudéré pour Europe 1.
C'est un peu une tradition chez Emmanuel Macron, réunir des patrons lors de grands événements comme à Versailles au moment de Choose France pour tenter de les convaincre d'investir dans l'Hexagone. Parmi les personnalités présentes autour de la table demain midi, le patron de Tesla, Elon Musk, celui de Coca-Cola aussi, de TikTok, d'Airbnb ou encore d'ArcelorMittal. Côté patrons étrangers. Il y aura également des dirigeants d'entreprises françaises, partenaires premium des JO, comme Bernard Arnault pour LVMH ou encore Carrefour. Autant de poids lourds de l'économie que le chef de l'État tentera de rassurer après la dissolution, vous l'avez dit. En effet, ce déjeuner sera l'occasion pour Emmanuel Macron de revenir sur les différentes séquences politiques qui ont eu lieu depuis juin en France et de répondre surtout aux questions des patrons sur ce contexte-là, surtout à l'Élysée. Il faut dire que l'enjeu est de taille. L'année dernière, près de 40 000 emplois ont été créés en France grâce à des investissements étrangers dont la France aura aussi besoin pour se réindustrialiser.
Il est 11h53, la dernière pause de ce journal avant l'actualité sportive consacrée essentiellement aux JO. Et on se retrouve ensuite pour les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Mon local a été vandalisé, incendié, j'ai perdu du stock, du chiffre d'affaires, l'expert de l'assurance est passé ou va passer et j'ai besoin d'une indemnisation rapide. Faites appel à Jérôme Bouza, expert d'assuré. Il défend uniquement les assurés et vous assistera de A à Z pour vous faire indemniser au plus vite par vos assureurs. Appelez-nous au 99 84 28. Honoraire au résultat et le plus souvent garanti par votre contrat d'assurance. Plus d'informations sur emetnc.com ou au 99 84 28.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'InfoMag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Alors vous le savez, les épreuves des JO commencent avant la cérémonie d'ouverture qui aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi pour nous. Et cette première journée des Jeux Olympiques de Paris 2024 s'est plutôt bien passé pour les Français. Le Stade de France d'abord accueillait les 12 premiers matchs du tournoi masculin de rugby à 7, Léo Fichou.
Oui, les 12 premiers matchs de rugby à 7 et les deux premiers de l'équipe de France pour leur entrée dans la compétition. Les Bleus n'ont pu faire mieux qu'un match nul contre les États-Unis, 12 partout. Pour Jérôme Daré, le sélectionneur de l'équipe de France, s'il n'y avait pas grand-chose de plus à faire.
Ouais, mais non, mais c'est pas évident hein, de rentrer dans la compétition comme ça. C'est les Jeux Olympiques, il y a du monde dans le stade. On va faire plaisir à nos supporters et aux gens qui sont là pour nous. Maintenant, on doit rester maître de ça, voilà, et continuer à travailler parce que dès qu'on a posé le jeu, on a été hyper dangereux. Donc voilà, il faut juste conquérir les actions positives qu'on a réussi à mettre en place et poser vraiment notre tempo.
Les joueurs de Jérôme Daré qui ont réagi de la meilleure des manières quelques heures plus tard lors du deuxième match. Ils se sont imposés 19-12 sur l'Uruguay, une victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale. Le dernier match contre les Fidji la nuit prochaine à 00h30 sera décisif. Le vainqueur terminera à la première place du groupe.
Entrée en lice également de l'équipe de France olympique de football et elle a déroulé ce matin.
Les tricolores ont démarré leur tournoi par une victoire 3-0 contre la team USA. Malmenés, les Bleus ont dû s'en remettre aux individualités d'Alexandre Lacazette, Michael Olise et un coup de tête de Loïc Badé sur un corner en fin de match. Thierry Henry, le sélectionneur des Bleus, salue le public du stade Vélodrome qui a su pousser ses joueurs.
De ne pas sentir l'émotion, il y avait beaucoup d'émotions. La Marseillaise jouait ici. D'ailleurs, encore une fois, j'aimerais souligner, le public a été extraordinaire. Vraiment, vraiment, parce que ça a été un jeu d'échecs à un moment donné. Il fallait être patient, le public a été patient. Nous a supporté, on savait que ça allait pas être évident, je l'ai dit depuis un petit moment, c'est une très bonne équipe. Mais encore une fois, je vous le répète, une compétition, ça se gagne dans le dur et de temps en temps, il faut avoir un petit peu de chance de son côté. Donc voilà, on sait très bien que ça va être difficile.
Prochain match pour les tricolores, ce sera dimanche à 6h, heure de Nouméa contre la Guinée.
Et puis ce soir, les épreuves de handball féminin et de tir à l'arc vont débuter.
Dès 18h, le tournoi féminin de handball avec Slovénie-Danemark, suivi de Pays-Bas-Angola et d'Espagne-Brésil. Il y aura également du tir à l'arc, en effet, avec le tour de classement femmes puis hommes. On retrouvera notamment Jean-Charles Valadon, médaillé d'argent aux Jeux de Rio en 2016.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
En route vers Paris pour mieux connaître les athlètes calédoniens qui sont sélectionnés pour ces JO qui ont débuté dans la capitale après le grimpeur Bassam Awem, la nageuse Emma Terebo, la rugbyman Yolen Nwengo. Intéressons-nous à Nicolas Gruyard. Il est engagé sur les épreuves d'IQ Foil et il est content de sa préparation, même si elle a été exigeante.
Pour l'instant, je suis un peu en phase de repos. On a fait un gros bug depuis 6 mois. Là. On n'a pas arrêté. On a fait beaucoup d'entraînement, beaucoup de prépa physique, beaucoup de préparation mentale aussi. Et ça a été non-top en 6 mois avec en fait, tout qui a été tourné autour des jeux. C'est ça que je pense qui était plus dur, c'est que contrairement à beaucoup d'autres épreuves, contrairement à beaucoup d'autres boulots qu'on fait classiquement, bah, quand finit la journée, quand finit l'épreuve, on est un peu off. En cas, pendant 6 mois, en fait, chaque chose qu'on fait a un but et on pense toujours à chaque conséquence de chaque chose que l'on fait. Des fois, il faut aller se faire un peu avec les potes, faire une soirée, mais du coup, il faut maîtriser un peu la soirée, il faut se dire, bon, allez, lâcher une soirée, mais pas trop non plus. Là, je vais faire un peu ce qui me plaît, mais du coup, pour un équipe mentale, mais donc, du coup, en fait, il y a tout ça qui est pris en compte. Il faut que je gère au jour le jour, mais du coup, tu es toujours un peu en train d'y penser, un peu en pression par rapport à ça, pour vraiment en fait, optimiser ton niveau d'énergie, optimiser ce que tu as à faire, et c'est ça pendant 6 mois. C'est long, 6 mois. Là, j'arrive un peu dans une phase où j'ai fait un boulot avec ma team qui est vraiment monstrueux. Je suis très, très content de là où on en est. Je me sens vraiment prêt, je me sens en forme. Là, j'ai besoin de cette petite phase de repos pour repartir encore plus belle. Du coup, là, je suis chaud pour les Jeux, quoi.
Voilà Nicolas Gruyard qui a appris sa qualification pour les JO assez tôt dans la saison. Et c'est une chance, nous a-t-il dit.
Oui, clairement. Après coup, ça a même pu être éventuellement plus tôt. On a pu bosser différemment. Mais par contre, clairement, avoir une sélection bien en amont, ça permet vraiment de bosser tôt, d'optimiser tout planning et de ne pas se laisser surprendre par le temps et d'avoir le temps de travailler sur différents points de travail. Donc là, clairement, c'était un beau point.
Il y a 3 ans, aux Jeux de Tokyo, le frère de Nicolas, Thomas, avait lui décroché une médaille d'argent en planche à voile RSX. Et nous avons donc demandé à Nicolas si son frère lui avait donné des conseils pour sa préparation.
Pas trop, non. Pour le coup, on est un peu sur la bulle. Et après, chaque athlète vit les Jeux de façon différente. On a tous des approches différentes, des sensations différentes. Et je vois Thomas et je sais qu'on a eu des approches différentes par rapport aux Jeux, complémentaires. Mais du coup, j'ai aussi besoin de faire mon expérience. Il faut vivre l'expérience, s'écouter et il n'y a pas vraiment de conseils à donner, c'est juste savoir s'écouter. Thomas une fois m'a dit bien garde-fou parce qu'il voyait en faire beaucoup, il dit fais attention à la fatigue, à ton niveau d'intensité. Mais à part ça, il laisse faire et c'est très bien comme ça.
Nicolas Goyard se sent donc prêt pour ses JO. Sa longue préparation de 6 mois l'a obligé à mettre évidemment le reste de sa vie entre parenthèses, ou presque.
Sur ces 6 mois, clairement, la préparation olympique, c'était tout ce qui est autour. Mais je fais pas mal de downwind en paddle foil, je fais du vélo, je fais pas mal de choses. Mais malgré tout ça autour était inclus dans la préparation olympique, à la fois en termes de détente, de plaisir, etc. Je continue forcément à bosser un peu à côté pour les différentes marques, à faire du sound foil, à faire différentes choses, à faire plaisir. Mais clairement, il n'y a pas de... Là, jusqu'au jeu, je suis dans une bulle, tour des jeux, et je suis pas trop content de faire autre chose. J'ai toujours fait pas de la multipratique avant, juste pendant ces 6 mois, je me suis vraiment resserré à fond sur la QFOL. Je pensais être capable de consacrer plus de multipratique, mais j'avais un peu sous-estimé l'intensité qu'il y aurait dans cette préparation. Et donc rapidement, je me suis vite rendu compte qu'il n'y aurait que la QFOL pendant 6 mois. Mais ce qui a été aussi une belle expérience en elle-même. Donc j'en suis content.
Nicolas Goyard débutera ses épreuves au JO dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Demain, le dernier portrait des Calédoniens engagés et sélectionnés pour ces Jeux Olympiques, ce sera celui du nageur Maxime Grousset, des portraits que vous pouvez retrouver en vidéo sur le site du CTOS.
En route pour Paris, découvrez les athlètes calédoniens sélectionnés pour les Jeux Olympiques avec le CTOS, l'Agence Nationale du Sport et la BNC.
Et avant de se quitter, encore une info JO, parce qu'on parle beaucoup des JO de Paris 2024, mais la France accueillera aussi les JO d'hiver en 2030, Léo.
Et oui, le CIO, Comité International Olympique, a attribué l'organisation aux Alpes françaises, à condition bien évidemment d'avoir reçu les garanties de l'État avant le 31 décembre. 4 sites accueilleront ces Jeux. En Haute-Savoie, il y aura du biathlon et du ski de fond. En Savoie, du ski alpin et du bobsleigh. À Briançon et Serre Chevalier, on aura le droit au snowboard, ski freestyle et du cross. Et puis, dernier pôle à Nice avec le hockey, le curling et le patinage.